Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 22h à Paris.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Dans l'actualité de ce mardi, la Suisse se prépare à accueillir le sommet Biden-Poutine. Les présidents des États-Unis et de la Russie se rencontrent demain à Genève. Du changement à la Cour pénale internationale, la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, achève son mandat. Elle a passé 9 ans à la tête de la juridiction. En Iran, dernière ligne droite avant la présidentielle de vendredi, les débats politiques entre citoyens se sont multipliés pendant la campagne électorale. Des débats organisés sur l'application mobile Clubhouse. Et puis en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été entendu par les juges aujourd'hui. Il s'est présenté au tribunal dans le cadre du procès sur le financement de sa campagne électorale en 2012.
Un journal.
Le journal en français facile.
En français facile.
J-1 avant le sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Les présidents américains et russes se rencontrent demain à Genève en Suisse. Cet entretien intervient au moment où les relations entre Washington et Moscou sont au plus bas. En attendant le début de ce sommet, la ville de Genève est complètement paralysée. Le récit de notre envoyé spécial Vincent Souriau.
Les bords du lac sont placés sous cloche. La circulation automobile y est interdite. Les lignes de bus ont été déviées. Les chantiers de construction sont interrompus autour de la zone rouge, celle qui entoure la villa Lagrange, une imposante bâtisse du XVIIIe siècle bordée d'un immense parc de verdure. C'est là que les discussions vont se tenir à la mi-journée avec, bien sûr, un déploiement policier massif. Plus de 3500 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, y compris les brigades nautiques des bateaux de l'armée suisse qui vont patrouiller sur le lac à proximité. Joe Biden s'est posé à Genève à la mi-journée. Il est arrivé à bord d'Air Force One ainsi qu'une trentaine de véhicules américains qui sont transportés dans les avions cargo de la délégation américaine. L'idée, comme à chaque déplacement du locataire de la Maison Blanche, c'est de prendre 150% de précautions. Vladimir Poutine, lui, est attendu mercredi à Genève en fin de matinée. Les deux présidents devraient ensuite se rendre à la ville à Lagrange, chacun dans leur hélicoptère, aux alentours de midi et demi. Vincent Souriau, Genève RFI.
Et après cette rencontre, Joe Biden et Vladimir Poutine s'exprimeront chacun de leur côté. Aucune conférence de presse commune n'est prévue.
Le journal en français facile.
Elle a passé 9 ans à la tête de la CPI, la Cour pénale internationale. La Gambienne Fatou Bensouda achève son mandat. C'est le Britannique Karim Khan qui lui succède. Retour sur le parcours de Fatou Bensouda à la CPI avec Christophe Pagé.
Jusqu'au bout, Fatou Bensouda aura irrité des présidents. Hier encore, elle annonçait demander une enquête sur les milliers de meurtres qui auraient été commis aux Philippines dans le cadre de la guerre contre la drogue du gouvernement Duterte. Le président philippin a fait savoir ce mardi qu'il ne coopérerait jamais. L'an dernier, c'est le président américain Donald Trump qui avait carrément imposé des sanctions économiques contre la procureure générale qui avait décidé d'enquêter sur des crimes de guerre présumés commis en Afghanistan par l'armée américaine. La même année, Benjamin Netanyahou, encore Premier ministre d'Israël, accusait Fatou Bensouda de pur antisémitisme. Elle voulait enquêter sur de possibles crimes de guerre commis dans les territoires palestiniens. Mais les critiques les plus fortes sont venues d'Afrique, où la CPI a beaucoup enquêté. Plusieurs présidents du continent parlaient en 2016 d'acharnement contre les Africains. Pas d'acharnement, avait alors insisté Fatou Bensouda, soulignant que c'était le plus souvent les États eux-mêmes qui saisissaient la Cour. À noter que c'est en Afrique qu'elle aura connu ses deux principaux échecs, l'acquittement du Congolais Jean-Pierre Bemba et ceux de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre Charles Blé Goudé. Pour ce qui est de ses projets post-CPI, l'ancienne ministre gambienne disait fin mai réfléchir à la manière de participer au développement de son pays.
Précision signée Christophe Pagé. En Algérie, le parti au pouvoir, le Front de Libération Nationale, remporte les législatives du week-end dernier. Le FLN est en tête avec 105 sièges de députés à l'Assemblée sur 407. Les candidats indépendants arrivent en deuxième position avec 78 sièges. Le MSP, la principale formation islamiste du pays, arrive troisième avec 64 sièges. Ces résultats ont été annoncés aujourd'hui par l'Autorité nationale indépendante des élections. L'Iran se prépare à sa présidentielle. Le scrutin aura lieu vendredi, mais le taux d'abstention s'annonce très élevé. Seuls 7 candidats ont été autorisés à se présenter. 5 d'entre eux sont des ultra-conservateurs. Paradoxalement, les débats politiques ont été plus libres lors de la campagne présidentielle. Grâce à l'application Clubhouse, elle permet de discuter en direct avec d'autres personnes, uniquement par la voix. Il suffit de la télécharger sur son téléphone. Clubhouse est un phénomène nouveau en Iran. Notre envoyé spécial à Téhéran, Oriane Verdier, a rencontré un des utilisateurs de cette application.
J'ouvre l'application, j'entre dans ce salon virtuel par exemple. Certaines personnes sont sur la scène et ont la possibilité de prendre la parole. Les autres sont en dessous et font partie du public.
Depuis plusieurs semaines, Mohamed Reza Mohajer passe ses soirées sur l'application Clubhouse. Il est modérateur, il donne la parole aux personnalités réunies dans un salon virtuel.
En Iran, il y a une grande distance entre les différents courants de pensée. Mais sur Clubhouse, on s'est rendu compte qu'on peut se parler entre nous. Des gens qui se trouvent à l'extrême gauche de l'échiquier politique, aux gens de l'extrême droite, même les personnes qui ne sont pas d'accord avec la République islamique. On peut tous discuter ensemble des questions qui nous importent.
Malgré tout, une grande partie des Iraniens regardent de loin cette application. Les débats qu'elle accueille n'offrent pas de réponse concrète à une population désabusée, à l'image de cette étudiante rencontrée près de l'université de Téhéran.
Je n'aime pas trop ce genre de choses. En Iran, c'est vu comme quelque chose d'un peu prétentieux. Ils prétendent être des gens très savants, mais c'est faux.
Mohamed Reza Mohajer lui-même sait que Clubhouse ne va pas changer le résultat des élections. Il prédit déjà avec regret la victoire du conservateur Ebrahim Raisi. Oriane Verdier, Téhéran, RFI.
Dans l'actualité également, l'Union européenne a réussi à emprunter 20 milliards d'euros sur les marchés financiers. Cette somme doit permettre de financer le plan de relance historique de l'UE après la crise du Covid-19. Le budget total de ce plan est établi à 750 milliards d'euros. L'ancien président français Nicolas Sarkozy était devant la justice aujourd'hui. Il a été interrogé par les juges dans le cadre du procès sur ses comptes de campagne. Nicolas Sarkozy est accusé de financement illégal de sa campagne présidentielle en 2012. En d'autres termes, il est accusé d'avoir laissé les dépenses dépasser le plafond autorisé par la loi. Pendant plusieurs heures, l'ancien chef de l'État a assuré à la Cour qu'il n'était pas au courant des dépenses. Il a aussi minimisé le faste, la grandeur de ses meetings. Pierre Olivier.
À entendre Nicolas Sarkozy, sa campagne de 2012 n'avait rien à envier à celle de François Hollande ou de Marine Le Pen cette même année. Elle a pourtant coûté 43 millions d'euros, dépassant de 20 millions les plafonds autorisés par la loi. Pourtant, Nicolas Sarkozy assure que ces meetings n'avaient rien de fastueux. On n'y mangeait pas, du caviar, peste-t-il, se retournant vers l'assistance. Elle est où, la campagne en or massif, gesticule-t-il à la barre. La présidente du tribunal le cuisine, lui demande si l'organisation des meetings était de son ressort, s'il avait conscience des coûts. Nicolas Sarkozy se défend avec force. À l'époque, je suis encore président de la République, je rentre à pas d'heure, je n'ai pas de temps à perdre avec l'organisation des meetings. Je ne sais même pas à quoi ressemblent les cartons d'invitation. Mon rôle, c'était la stratégie politique. Une campagne pas plus fastueuse d'après lui que celle de 2007 et qui n'avait donc aucune raison de l'inquiéter sur le montant des dépenses. Nicolas Sarkozy abonde. La campagne de 2012 a coûté un peu plus cher que celle de 2007, mais pas le double. Il faut se demander où est parti l'argent et qui s'est enrichi. En tout cas, ce n'est pas moi. Pierre-Olivier Jadelcoury au tribunal de Paris, RFI.
Le militant français Alain Coq est mort aujourd'hui par suicide assisté en Suisse. Il avait 58 ans. Alain Coq militait pour la fin de vie digne. Il souffrait d'une maladie incurable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être soigné. Avant de mourir, Alain Coq a adressé un message au président français Emmanuel Macron, au gouvernement et aux parlementaires. Voici ce qu'il écrit. Je tiens à vous informer de mon décès dans la dignité dans le cadre d'une procédure de suicide assisté en Suisse. Il a également dénoncé le manque de courage de la classe politique française. En août dernier, le président Emmanuel Macron avait refusé de donner une autorisation au médecin de lui prescrire un produit qui lui aurait permis de partir en paix, selon ses mots. Enfin en sport, la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu comme prévu au Cameroun en janvier 2022. Le secrétaire général de la CAF l'a confirmé aujourd'hui. Véron Mosengo Omba a donc démenti lors d'une conférence de presse les rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles le tournoi serait retiré au pays hôte. La CAN se jouera donc bien entre le 9 janvier et le 6 février 2022. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter et le lire sur notre site RFI Savoir.